Dans le Journal de Montréal, ce matin, on apprenait que l'APCHQ était très inquiète de la fin du crédit d'impôt Rénovaire et que ça allait faire mal à l'économie québécoise. On disait, Pierre-Yves, même jusqu'à hauteur de 300 millions de dollars.
Ça, c'est un lobby. On s'entend pas, l'APCHQ, c'est un lobby. Mais quand tu regardes ça dans froidement, ce que ça a permis, le crédit Rénovaire, c'est d'anticiper des décisions. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont commencé à dire « OK, je l'aurais fait l'année prochaine, mais je vais peut-être le faire cette année parce que peut-être le crédit sera pas là l'an prochain, donc on devance une décision. Mais si je veux me poser un climatiseur, changer mes fenêtres ou isoler ma maison, le crédit n'est pas assez élevé pour que je change ma décision. » Et il y a des entrepreneurs qui m'ont avoué sous le couvert de l'anonymat, Paul, que ça leur a permis de garder une marge de profit très intéressante qui, dans une logique de concurrence pure et parfaite, ce ne serait pas arrivé. C'est-à-dire que quand tu dis à ton client « Hey, je te charge ce prix-là, mais tu vas avoir un rabais après tel montant », le client est content. Donc, tu fais financer par l'État, par la population, le rabais que tu aurais accordé dans un monde de concurrence pure et parfaite. Tu sais, si tu changes tes fenêtres, Si tu isoles, C'est pas vrai que c'est le crédit d'impôt qu'il faut faire que tu sois faire en sorte que c'est vert, là. C'est que t'as une transaction à faire financièrement. Le crédit n'est pas assez élevé pour modifier ton comportement. Maintenant, tu vas peut-être, tant qu'à y être, profiter du crédit. Ça va anticiper une décision. Mais ça ne fera pas faire des décisions plus vertes. Et c'est peut-être là que le gouvernement a dit, écoutez, si on veut vraiment, si l'objectif c'est qu'on fasse des choses plus vertes, c'est beau. Sinon, il y a une chose qui est bien, c'est que ça permet à des entrepreneurs de peut-être déclarer des revenus qu'ils ne déclaraient pas habituellement parce qu'il y a de la fraude fiscale en résidentiel qui n'a pas eu lieu parce qu'on avait besoin de déclarer avec des factures pour avoir droit au crédit d'impôt.
Parlons maintenant dans la section droit de la famille des limites des calculs de pension alimentaire pour enfants.
Hey, je me suis amusé là-dessus, Paul. Aujourd'hui, je suis allé voir et ce qui est très drôle avec les pensions alimentaires pour enfants, pourquoi je t'en parle, c'est parce qu'on vient de parler dans le journal que c'était la fin de certaines consultations sur le droit de la famille et qu'on va revoir le droit de la famille dans les prochains mois et années. Et quand on regarde ça, c'est un peu drôle. Le calcul du gouvernement pour la pension prend le revenu brut du père et de la mère ou des deux mères ou des deux pères là, et on enlève le crédit de base d'impôt en voulant calculer un revenu disponible. Donc, on prend le crédit de base. Mais on ne tient pas compte du taux d'impôt des deux, là. On dit pas, hey, toi, si t'es à 50% au taux marginal, puis toi, à 22, on fait juste regarder le crédit de base. Puis après ça, on répartit les dépenses. Et ce qui est encore plus drôle, j'ai simulé quelques faits. En somme, plus les parents gagnent d'argent, plus la contribution alimentaire des enfants augmente. Ce qui est un peu farfelu. Parce que c'est pas vrai, parce que tu gagnes trois fois plus que ton voisin, que tu vas dépenser trois fois plus pour ton enfant. C'est pas vrai parce qu'une année, ponctuellement, tu fais 200 000, que tu vas nécessairement toute ta vie vivre un train de vie qui ressemble à ça. Peut-être que toi, t'es un joueur de hockey dans les premières années, puis qu'après ça, tu vas gagner juste 40 000, donc tu vas être surpondéré dans la pension dans tes premières années. En somme, le calcul tient pas compte de la fiscalité, mais te demande de verser un montant net. Le calcul fait en sorte que ton enfant, si t'es plus riche, on calcule que tu vas lui donner du caviar au lieu de donner du Kraft Dinner, alors que c'est pas vrai. Et le calcul fait en sorte que si tu verses une pension à quelqu'un, on prend pour acquis que c'est pour maintenir le train de vie des enfants, alors que si la pension est très élevée, ça va aller dans le paiement des actifs. Et finalement, quand les enfants vont quitter la maison, c'est une pension alimentaire implicite à l'ancien conjoint ou l'ancienne conjointe qui s'implique. Donc, ce qui est très, très drôle, c'est que le calcul au niveau fiscal est complètement incohérent. Au niveau logique financière est incohérent, mais on ne l'a jamais revu dans son fondement et espérons que pour l'instant, avec la révision du droit de la famille, on revoit la logique derrière ça.
Et on termine avec Airbnb. 5 raisons qui ont poussé le gouvernement du Québec à intervenir en ce qui a trait à Airbnb.
Ce qui est intéressant, Paul, avec les Airbnb, c'est, je sais pas, as-tu déjà fait ça dans le monde, Paul, quand tu as été allé ailleurs?
Non, je n'ai jamais été dans un logement loué par Airbnb.
Bien, il y a plusieurs problèmes liés à ça. Le premier au Québec, c'est que tu dis, écoute, on a une règle qui fait en sorte que ta résidence principale, celle que tu occupes pour vivre, on ne veut pas t'imposer dessus en te disant, si tu fais un gain en capital, ben c'est pour vivre dedans, on veut te laisser ça libre d'impôt. Mais si tu commences à louer un autre appartement, puis à louer ta résidence principale dans le tapis, Finalement, tu fais une activité commerciale, donc c'est plus vraiment ta résidence principale dans les faits. Deuxième point, le gouvernement contrôle les loyers. Tu sais, quand on veut protéger le droit des locataires, on veut les empêcher de vivre une hausse drastique des revenus, des loyers, sans qu'il y ait amélioration majeure du logement, alors on met des règles. Mais si après ça, tu peux aller te revirer de bord comme locataire, puis louer ton logement à gros prix, sans l'accord du propriétaire, tu joues avec les règles, tu te subventionnes avec le propriétaire, et après ça, tu vas faire un revenu qui est parfois non imposé parce que tu le caches au gouvernement.
Ben oui. Je pense pas que les gens se précipitent pour mettre ça en annexe à leur rapport d'impôt.
Et non. Puis en plus, Paul, au centre-ville, prends la tour du Canadien, par exemple. Il y a un gros problème au début. T'as les tours à condos qui viennent en concurrence avec les hôtels sans jouer avec les mêmes règles financières, les mêmes règles de taxation. Donc, c'est de la concurrence déloyale quand on fait une activité commerciale à temps plein. Quatrième point, comme on disait, le gouvernement veut que ce soit imposable, c'est un revenu. Donc, peu importe si tu le fasses à temps partiel ou à temps plein, si tu déclares, si tu loues ton appartement et que tu en tires un revenu, c'est une activité commerciale, alors on veut de l'impôt. Et finalement, la quiétude du voisinage. Tu sais, tu es dans un quartier résidentiel. Tu achètes un condo ou tu loues un appartement dans un quartier résidentiel où il n'y a pas de semi-commercial, où tu n'as pas dit « oui, j'accepte de vivre en haut d'un commerce ». Et tout d'un coup, en bas de chez vous, c'est le power toutes les fins de semaine. C'est le gros party parce que ce sont des touristes qui viennent fêter le Grand Prix, qui vont là, ou peu importe la fête. Donc, tu n'as pas signé pour ça et tu n'as pas payé pour ça. Alors, ton voisin ne doit pas exploiter un commerce dans une zone non commerciale si c'est à des fins récurrentes. Alors, voilà, toutes ces raisons font en sorte que le gouvernement t'a mis un numéro d'enregistrement et que bientôt, on va devoir déclarer dans l'annonce « Ceci est un Airbnb, voici mon numéro d'enregistrement pour location. »
Merci, à demain. Salut.